Accent d'Europe, Catherine Roland. Bonjour à tous, bienvenue pour retrouver les meilleurs moments d'accent. Se rendre directement dans les camps de réfugiés des pays de transit pour organiser un voyage sûr vers l'Italie. Voilà résumé en une phrase l'expérience des couloirs humanitaires lancée il y a 2 ans par des associations comme les chrétiennes Sant'Egidio et Caritas, mais aussi l'association Gandhi. Après avoir secouru des réfugiés syriens, le programme se tourne vers l'Afrique. Cécile Debarge les a suivis lors de leur voyage préparatoire dans les camps de réfugiés érythréens en Éthiopie.
À l'ombre du grand préau construit un peu à l'écart des habitations du camp d'Itsats, une trentaine de réfugiés érythréens attendent de rencontrer l'équipe italienne du projet de couloir humanitaire. Daniel Albanese, chemise blanche et gilet bleu sans manches frappées du sigle de la Caritas, est l'un d'eux.
Nous allons réaliser les premiers entretiens avec les personnes qui nous ont été signalées. Nous allons les rencontrer pour voir si nous pouvons les intégrer au prochain couloir humanitaire.
Au total, près de 11 000 réfugiés érythréens vivent dans ce camp, le plus récent et le plus grand de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Zone B, bloc 5, communauté C, maison numéro 38. Le camp est tellement grand que chaque maison se repère à ses zones. Nebiat connaît ce camp par cœur. Cela fait 4 mois qu'elle y vit après un périple malheureux au Soudan, en Malaisie et en Ouganda. Elle a finalement échoué ici avec des milliers d'autres Érythréens. Sur le seuil d'une petite baraque de tôle, une maman tient son enfant dans les bras. Elle a fui avec son mari et confie à Nebiat vouloir gagner les États-Unis. Mais en l'absence d'une politique efficace de réinstallation des réfugiés, comme c'est normalement prévu par le Haut Commissariat aux réfugiés, le projet de couloir humanitaire italien est l'un des seuls espoirs de quitter Itsats. Coordinateur pour la Caritas du projet en Éthiopie, Daniele Albanese s'y rend pour la première fois.
La première chose que nous faisons est fondamentale, entrer en relation avec eux et leur faire comprendre ce que nous faisons ici. Ensuite, on leur demande de nous raconter leur histoire, ce qui les a poussés à quitter leur pays, pour comprendre si, une fois en Italie, ils pourraient remplir les conditions afin d'obtenir le statut de réfugié.
Le protocole signé en décembre 2016 entre l'État italien et les 3 organisations à l'initiative du projet, c'est-à-dire Caritas, Communauté de Sant'Egidio et Association Gandhi, est clair. Les réfugiés arrivent avec un visa à durée et territorialité limitée. À peine arrivés en Italie, ils doivent donc déposer une demande d'asile. Pour être sûr d'identifier des profils qui seront acceptés, le premier entretien réalisé dans le camp est suivi de 2 autres.
Ensuite, nous en ferons sûrement un autre dans un endroit plus neutre, hors du camp, pour mieux comprendre, si jamais ils ne nous ont pas entièrement raconté certaines situations, s'il manque des passages à leur histoire, s'il manque des membres de la famille dans la demande.
Un premier groupe de 25 personnes est arrivé au mois de novembre, un autre de 113 fin février. Sud-Soudanais, érythréens, somaliens, pour eux, le plus gros du travail commence en Italie.
Ce couloir humanitaire, on le fait d'abord en vérifiant sérieusement les capacités d'accueil et on sélectionne ensuite les réfugiés.
Olivier Roforti est le responsable des questions d'immigration pour la Caritas. Il résume bien le projet. Un voyage sûr vers l'Italie pour les réfugiés, certes, mais surtout un parcours d'intégration sur mesure élaboré des mois avant le départ en vérifiant les conditions d'accueil dans les différents diocèses italiens qui participent au projet jusque dans les moindres détails.
On ne se contente pas d'un coup de fil pour confirmer qu'il y a 2 appartements disponibles. On va les voir. Ils doivent être en normes, adaptés, dans un quartier pratique, parce que s'ils sont au milieu de nulle part, là on dit « Non, toi tu n'es pas prêt à recevoir des réfugiés. »
Pendant 1 an, les réfugiés seront nourris, logés et accompagnés par la Caritas. Un engagement qui pourrait aller bien au-delà pour certains d'entre eux. L'un des critères du projet étant de sélectionner des personnes particulièrement vulnérables qui n'auraient aucune chance autrement.
Personne ne voulait des enfants tétraplégiques, de femmes cancéreuses ou encore d'enfants avec des problèmes cérébraux. C'est le genre de cas que nous avons décidé de prendre en charge, pas que nous sommes meilleurs, mais simplement parce qu'on en a la possibilité. Nous avons les hôpitaux de l'Église, des médecins volontaires.
Au total, 500 réfugiés pourront profiter de ce projet de l'Éthiopie vers l'Italie d'ici la fin de l'année. Une opération symbolique pour ouvrir la voie à une autre conception de l'émigration, explique Giancarlo Penza de la communauté de Sant'Egidio.
Ce sont des modèles. Quand on a commencé avec ces couloirs humanitaires, on savait que s'ils fonctionnaient, le projet pouvait être reproduit avec d'autres personnes, des privés, des associations, la société civile et même des institutions.
Et c'est encore la communauté de Sant'Egidio qui a monté des projets similaires avec le Secours catholique en France et en Belgique, comme elle l'avait déjà fait en 2015 en Italie. Les deux pays francophones accueilleront respectivement 500 et 150 réfugiés syriens grâce à des couloirs humanitaires. We want to send a letter to you. You might not read it, but it's something that we've got to do. Dans les montagnes russes, c'est effectivement dans cet état que doivent se sentir les Britanniques anti-Brexit. Les crises politiques se succèdent au sein du gouvernement de Theresa May et difficile de savoir comment cela va se terminer. L'accord sur le Brexit doit être finalisé entre Londres et Bruxelles en principe avant la fin de l'année. Une jeune Anglaise, elle, n'a pas baissé les bras. Madeleine Kay, farouche opposante au Brexit, n'a pas hésité à enfiler le costume de super-héroïne pour sauver son pays de ce qui sera, selon elle, un désastre. Portrait signé Marie Billon.
Le Royaume-Uni a besoin de super-héros pour le sauver du Brexit. Des propos lancés en désespoir de cause par Madeleine Kay. Le pays marche comme un funambule vers la sortie de l'Europe, disent les europhiles. L'autoproclamée super-girl de l'UE est là pour le secouer et le réveiller. Vêtue d'un costume de super-woman, cap et collant bien sûr, mais aussi étoiles européennes autour du fameux S. La jeune femme de 23 ans, originaire de Sheffield dans le nord de l'Angleterre, est une farouche combattante anti-Brexit. « Je suis opposée à chacun de ces aspects » et elle le fait savoir de toutes les manières possibles. Avec son costume, en habillant sa mascotte, son husky blanc d'un petit manteau aux couleurs du drapeau européen, elle le dit aussi sur les réseaux sociaux et dans son blog et même en chanson. « Call it me. Appelez ça de la pagaille ou de la folie, chante Madeleine Kay en parlant du Brexit et en demandant à la première ministre Theresa May de démissionner et d'arrêter de mentir. La jeune femme peut s'enorgueillir de 10 000 abonnés sur Twitter, même si ses vidéos ne sont vues chacune que moins de 500 fois pour la plupart. Elle s'adresse surtout aux jeunes, ceux qui se sont désintéressés de l'Europe et ne sont pas allés voter lors du référendum, ceux-là même qui doivent lever la voix s'ils veulent arrêter le Brexit, car pour elle, ce n'est pas trop tard. La Supergirl est décidément sur tous les fronts puisqu'elle écrit aussi des petits livres illustrés. Et après avoir gagné un concours européen grâce à son blog, elle a été invitée à Bruxelles en octobre. Revêtue de sa cape, elle voulait remettre son ouvrage à Michel Barnier, le négociateur européen. Mais la sécurité l'a fait sortir de la salle de la conférence de presse. « Ça m'a énervée parce que c'était très antidémocratique de me faire quitter la salle », a-t-elle réagi sur la BBC. La Supergirl n'est pas une amoureuse transie qui ne voit rien à redire à l'Europe, mais ça ne l'empêche pas de porter ses couleurs.
Comment garder les forces vives du pays ? C'est la question que se posent tous les jours les responsables roumains qui ont bien du mal à attirer et conserver le personnel qualifié. Et c'est le résultat d'une étude du think tank belge Bruegel. Les départs des travailleurs roumains vers l'étranger plombent l'économie. Alors dans certains secteurs, comme l'informatique, on a trouvé la parade. Hausse des salaires, prime au retour, formation. C'est le reportage de Benjamin Ribou.
Ce sont des milliers de diplômés en informatique qui arrivent tous les ans sur le marché du travail roumain qui les absorbe sans problème. Car le pays attire toujours plus de start-up et la trentaine de facultés d'informatique ne fait plus le poids. D'autant que les jeunes veulent se tourner vers des structures plus modernes comme l'Académie Plus, créée à Cluj par Bogdan Era, où celui-ci possède sa société d'informatique. Depuis l'an passé, cette école de développeurs existe aussi à Bucarest et ça se bouscule au portillon. Sur place, c'est Daniela Bouchkan qui gère l'école.
Nous proposons environ 200 semaines de cours, même si un étudiant ne va jamais tout faire. Ça reviendrait à suivre trois spécialités dans la même université. Mais on insiste sur le fait de bien travailler sur les technologies recherchées sur le marché, car on sait que l'industrie informatique roumaine est en pleine croissance depuis quelques années. Il y a 15 ans, l'industrie était encore en phase avec ce qui s'apprenait à l'école, mais entre-temps, les besoins ont largement augmenté. Or, je ne pense pas que ça se limite au secteur, mais plutôt à l'ensemble de l'économie où ce type de compétences est demandé.
Lors de l'annonce de son lancement dans la capitale, l'Académie Plus a reçu plus de 5000 candidatures. Seuls 143 étudiants ont été sélectionnés après un véritable parcours du combattant. L'enseignement est calqué sur le modèle de l'école 42 à Paris, avec laquelle l'Académie Plus a monté un partenariat. Mais ici, la priorité, c'est avant tout d'être bien en phase avec le marché local. Ses spécificités, comme le langage Java, plus utilisé que dans d'autres pays, mais aussi ses acteurs économiques, car ce sont eux qui investissent dans cette jeunesse. Daniela Bouchkan.
Ce sont les entreprises qui prennent en charge les coûts de formation des étudiants. L'école, elle, s'engage à bien les adapter à leurs besoins. Du coup, à la fin de ces 6 ou 9 mois de formation, le jeune est prêt à intégrer une société et la période de stage qui doit se dérouler après l'embauche est ainsi réduite. Les besoins sont énormes car les compagnies nous demandent sans cesse si nous disposons d'autres programmes de formation. C'est un marché en plein développement.
Disposant de l'un des internets les plus rapides au monde, la Roumanie est un important vivier en informaticien. Et le secteur fait rêver. Première école d'informatique gratuite de Roumanie, ouverte 24 heures sur 24 et avec des projets bien concrets, l'école n'a pas eu de mal à recruter avec ce type de message. En cette fin de journée, ils sont une vingtaine à plancher sur leur projet. Parmi eux, Adrian, un lycéen de 16 ans.
Ici, on peut voir la carte de nos projets. Chacune de ces branches représente une spécialité. Là, c'est la partie graphique. À côté, c'est l'algorithme et enfin, voici Unix et Linux. Je viens ici tous les jours passer quelques heures en fonction de mes disponibilités car je suis aussi au lycée. Je veux apprendre le plus possible dans le domaine de la programmation. Lors du recrutement, il a fallu assimiler les langages de programmation C en intégralité et on n'avait pas de professeur. On devait donc se débrouiller.
Même s'il est là par plaisir, comme il le dit, Adrian pense déjà à son avenir et envisage d'aller étudier dans une université à l'étranger. D'autres étudiants de l'Académie Plus, eux, sont déjà passés par la case universitaire. Pour eux, cette aventure est donc une seconde chance, avec la pression que cela implique. Sorina, 28 ans, est de ceux-là.
Je travaillais comme ingénieur pétrochimiste dans une raffinerie, mais j'ai toujours voulu faire de la programmation. Je reviens donc à la programmation aujourd'hui, même si la décision de démissionner a été difficile à prendre. Avant, je venais tous les jours, mais depuis quelque temps, j'ai un mentor à la Société Générale. Le but du mentor est de nous ramener au niveau qui peut nous permettre de trouver un job comme stagiaire ou junior. L'idéal pour nous, les plus vieux, serait de se faire embaucher. Pour un emploi à temps plein, en tant que junior, je toucherai entre 500 et 600 euros par mois, dès l'embauche.
Aujourd'hui, l'Académie Plus est financée par 4 sociétés, dont 3 françaises. À Cluj, l'immense majorité de ceux qui sont sortis de l'école ont très vite trouvé un emploi. Pour des salaires souvent très bons, certains dépassant largement le salaire moyen qui s'élève à 500 euros dans le pays. Le secteur informatique se donne les moyens de garder ses talents. On ne peut pas en dire autant de l'ensemble de l'économie roumaine où la formation est encore négligée, à l'image d'un système éducatif en grande souffrance.
Si la Big City de Londres est réputée pour la flexibilité du travail, elle l'est évidemment moins pour celle des salaires. Pourtant, une entreprise a décidé de prendre le contre-pied de cette logique. La PME S-Markets, qui opère dans les paris en ligne, laisse ses employés choisir eux-mêmes leur niveau de rémunération, carrément, à certaines conditions tout de même. Marie Billon.
Il suffit de mettre un pied dans les bureaux de S-Markets pour se rendre compte que l'employé évolue en toute liberté. À travers les parois en verre des bureaux, on aperçoit des jeunes gens en tongs ou même en chaussettes. Ils travaillent sérieusement derrière leurs ordinateurs posés sur des bureaux à roulettes et ajustables en hauteur. Certains sont perchés sur une sorte de toupie géante. C'est parce que rester debout trop longtemps, c'est mauvais pour la circulation, explique l'un d'eux. S-Markets chouchoute ses employés et a conservé son esprit start-up. La PME a même poussé la liberté plus loin encore. Chacun décide de son propre salaire. Mais ce n'est pas non plus l'anarchie. Tous les 6 mois, en début et milieu d'année, chacun peut demander à ce que ses émoluments soient révisés. Sauf que ce n'est pas le manager qui décide. Il n'y en a pas de toute façon. Ce sont 5 collègues avec lesquels on travaille tous les jours et à qui on demande « Combien penses-tu que je devrais être payé ?» Pour les aider à trancher, le salarié remplit un formulaire qui détaille pourquoi il pense mériter une augmentation, mais interdiction de proposer un chiffre. Les 5 collègues reviennent ensuite vers lui avec une proposition chiffrée. Si ce dernier l'accepte, tout va bien, l'augmentation est dans la poche, pas besoin de faire valider par un supérieur. En revanche, s'il estime qu'il devrait être plus payé, il y aura d'autres réunions, mais le dernier mot reste à l'employé. La direction des ressources humaines croit en la magie de la transparence, puisque tout le monde connaît le salaire de tout le monde. Difficile de retourner le lundi au travail auprès de collègues qui vous trouvent trop payés. Le copinage est aussi un problème potentiel, mais cette fois, c'est la confiance qui est au cœur du système. Généralement, d'ailleurs, les salariés de Smarkets jouent le jeu.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating.
Music. Let me know when you're ready.
That's a good start.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Alors, on fait connaissance aujourd'hui avec un trio suédois qui sort son deuxième album.
Ah oui, Hey Elbow, c'est un groupe formé à Stockholm en 2013 et qui doit son nom à un mouvement d'aérobic que ces trois jeunes gens ont appris avant un concert dans le public, tandis qu'ils attendaient l'arrivée sur scène de leur compatriote The Knife. Pour autant, la musique de Hey Elbow n'est pas particulièrement sportive ou sautillante. C'est une pop vaporeuse et enveloppante qui doit notamment sa singularité à la formation jazz de ses musiciens et à leur goût marqué pour l'improvisation. Au menu, sonorités synthétiques et cuivres associées au fil de chansons, aux tracés souvent rectilignes, mais parfois plus sinueux, comme l'a bien nommé Nocturnal, cet extrait de leur deuxième album, Co-Co-Co, qui vient de paraître.
Vincent Théval dès demain avec sa nouvelle sélection. En attendant, merci de votre fidélité.